Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Florence Cohen sur RTL.
Avec ce soir, Elisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur. Bonsoir à tous. Hervé Favre, éditorialiste à La Voix du Nord. Bonsoir. Ainsi que Paolo Lévy, correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Bonsoir Paolo.
Bonsoir.
Bon, je voudrais commencer par revenir sur l'agression de la députée La République En Marche, Lauriane Rossi. Elle a reçu un coup de poing à la tempe hier, alors qu'elle distribuait des tracts sur un marché dans sa circonscription des Hauts-de-Seine. Au départ, c'était une discussion animée avec un détracteur d'Emmanuel Macron. Toute la classe politique a réagi et condamné. Vous vous en souvenez évidemment, la campagne présidentielle a été rude, a été violente. Qu'est-ce que cette agression dit de notre société? Que la confrontation des idées est devenue synonyme de violence et que c'est déplorable, Hervé Favre?
Oui, enfin, il y a une situation assez paradoxale, et moi je l'avais souligné au moment de l'agression de Nathalie Kosciusko-Morizet, donc pendant la campagne législative. Et en fait, les Français ont élu il y a 2 mois un président et ensuite une majorité sur le principe d'une majorité qui dépasse les clivages, justement, qui sortent de cet affrontement perpétuel entre la droite et la gauche. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une frange quand même de la société qui est
au contraire, de plus en plus.
Il y a toujours des conflits de plus en plus radicaux. Il suffit sur Twitter, c'est un espèce de déferlement quotidien et permanent de haine, vraiment des messages de haine. Et on se dit que la personne qui tweete, généralement sous le sceau de l'anonymat, enfin d'un pseudo, rencontre sa cible favorite dans la rue, effectivement, on n'est pas très étonné que ça puisse se passer mal. Et c'est effectivement assez inquiétant.
Elisabeth Lévy.
Bon, moi, je voudrais quand même dire une petite chose un peu à côté. Donc, je trouve ça tout à fait intéressant, ce que vient de dire Hervé. Et c'est vrai, si vous voulez, que cette idée de ce rêve d'éliminer la conflictualité de l'existence, de la vie, etc., c'est-à-dire le rêve post-historique, est tout simplement nous stérilise, en quelque sorte. Non, mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que les médias, tout le monde, les bonnes âmes, les bons esprits, les commentateurs, passent leur temps, si vous voulez, avec cette obsession des affaires, de « il a piqué dans la caisse, il a fait ci, il a fait ça », c'est-à-dire passent leur temps,
obsession,
si vous voulez.
C'est leur travail aussi. Non,
Paolo Lévy.
Non, mais je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, je suis désolée. Dans l'affaire Fillon, c'était pas tout à fait leur travail de servir une affaire en cours d'instruction de façon aussi unilatérale. Non, passent leur temps, donc, si vous voulez, à monter en sauce ces affaires qui, même quand elles existent, ne sont pas quand même l'entièreté de la vie, même des gens concernés. Si vous voulez, vous pouvez, je veux dire, faire un truc qui est peut-être pas terrible et par ailleurs être pas un salaud complet. Sauf que l'absolutisme de tous les gens qui se plastronnent sur les plateaux en disant « moi je lave plus blanc que blanc », comme si eux étaient parfaits, si vous voulez, finis. Pardonnez l'impression, si vous voulez, qu'on a affaire à une bande de margoulins, qu'il faut les fliquer de tous les côtés avec cette idiote loi scélérate par ailleurs de confiance, et je pèse mes mots, je parle de l'article 1er. Et donc, si vous voulez, tout ce climat autour de cette loi de confiance qui en réalité ne va faire que accroître la défiance, je sais pas si ça joue, si vous voulez, mais après, il faut pas dire tout d'un coup « Ah, tout d'un coup, on entend la machine à parler se renverse, et qu'est-ce qu'on entend toute la journée ? Mais ce sont des gens qui servent, et ceci et cela. » Donc, si vous voulez, il faut arrêter de tenir des discours complètement grandiloquents qui, de toute façon, nourrissent ça. Par ailleurs, on ne peut pas, à partir de 2 ou 3 faits, construire, si vous voulez, une théorie sur le fait que les relations politiques deviendraient plus violentes et... Je reprendrai peut-être après si on peut continuer, mais je vois que Paolo
piaffe. Alors, vous reprendrez plus tard.
Et moi, je piaffe de l'entendre.
Et réagir.
Voilà, non, pas du tout. Non. la chose inquiétante est aujourd'hui peut-être le fait que dans une société, voilà, peut-être de moins en moins habituée à s'exprimer à travers la confrontation verbale, les tweets, ces 140 caractères, etc., on risque d'abandonner complètement ce qui faisait grand l'être humain, c'est-à-dire le fait de se confronter dans une dialectique respectueuse et virulente aussi. Personne ne met en cause la nécessité d'une confrontation virulente, mais on passe directement aux violences physiques, ce qui est complètement inacceptable.
Je peux réagir à ça, parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais justement, et vous l'avez un peu lancé dans votre question, mais ça c'est le point central, parce que en réalité, il n'y a a pas, on ne peut pas avoir un débat intellectuel ou idéologique dans le climat actuel, c'est-à-dire sous surveillance des associations absurdes qui traquent le dérapage, et toi t'es raciste, et toi t'es ceci.
Mais donc, pourquoi pas ?
Parce que quand on veut débattre, si vous voulez, il faut pas penser tout le temps, attention, est-ce que je vais choquer, etc. Il faut entendre, parce que c'est précisément, on combat mieux le racisme, à mon avis, par l'argumentation.
En se tabassant.
Par l'argumentation.
Alors,
on est d'accord, par l'argumentation. On est le pays des lumières, quand même.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça ? C'est-à-dire qu'à force d'aseptiser la parole et de tourner autour, finalement, quand on tombe dedans, et ben on finit par se taper. Ce qui est déplorable, je le répète.
Oui, mais là, c'est quand même assez curieux, parce que c'est une députée qui n'a pas un passif, qui n'a pas d'affaires, qui personne connaissait jusqu'à dimanche, et qui, tout d'un coup, se fait boxer sur un marché.
Petite précision, d'ailleurs, une dernière minute qui vient à l'instant de tomber, juste après cette agression. L'agresseur, donc, a comparu en comparution immédiate cet après-midi. Un mois de prison ferme vient d'être requis contre lui. On en est là. Pardon, poursuivez.
Mais pour revenir sur cette radicalisation finalement du débat, enfin quand on lit par exemple ce qu'a la prose de François Ruffin sur
Emmanuel
Macron,
très très bonne. C'était un vrai appel à la haine.
Un appel à la haine. Donc il ne faut pas s'étonner.
Les insoumis sont vraiment. Vous avez raison.
Moi, ce que je crains, c'est à la rentrée le rendez-vous sur la loi, la réforme du code du travail. Même si à mon avis il n'y aura pas un million de personnes dans la rue, mais il risque d'y avoir des manifestations très violentes, comme on l'a déjà vu avec la loi El Khomri. Et c'est là que c'est la radicalisation à la fois de la parole et des actions contre la police.
Non, mais d'autant plus qu'à chaque fois, si vous voulez, on va nous faire le coup, c'est Dickens, ça y est, on est revenu au 19e siècle. Et donc, on est dans un débat. Non, mais c'est un débat qui n'a plus de sens. Si vous voulez, d'un côté, il y a ce que vous dites.
Oui, mais ça ne peut pas justifier un recours à la violence.
J'ai jamais dit que ça justifiait. Je veux dire, d'abord, excusez-moi, mais moi, je ne connais pas le cas de ce type. Mais c'est marrant, quand un type pose des bombes, on se dit, ah, il est peut-être fou, et là, personne ne se dit que peut-être le mec, il n'est pas très net. Non mais j'en sais rien, je veux dire, il y a aussi des gens qui ne contrôlent pas, il y a des gens qui tabassent leurs femmes, il y a des gens qui ne contrôlent pas leur colère, et c'est pas forcément un fait politique, c'est ça que j'essaie de vous dire.
Si on renverse la vapeur par rapport à ce qu'on dit,
non,
comment finalement,
c'est horrible, mais c'est comme ça.
Quel antidote à ce climat-là, lequel vous voyez ?
Il faut absolument ne pas chercher d'apaiser les clivages, tout d'abord. Je trouve qu'on est sorti de 5 ans très, très clivants pour la société française. Et voilà, il faudrait comprendre que l'intérêt est collectif et donc des discours rassembleurs, c'est-à-dire que c'est vrai aussi que parfois certaines attitudes des hommes politiques, elles tendent plutôt à cliver, et ça c'est vraiment pas l'antidote.
Je suis pas tout à fait d'accord.
On l'a vu cette semaine à l'Assemblée, en fait, à un spectacle entre les nouveaux qui savent pas comment ça marche, qui tâtonnent forcément, ils sont en plein apprentissage, des vice-présidents qui sont pas là auteurs, ils n'ont pas été formés, qui ont été balancés là dans le grand jeu. Et donc les anciens qui, eux, se sont fait réélire et qui sont revenus pas très nombreux, eux, ils n'ont plus que ça pour exister. C'est-à-dire de crier tout de suite au scandale.
Mot de la fin, Elisabeth Lévy.
La République en danger.
Je suis pas complètement d'accord avec Paolo, parce qu'en réalité, la politique, elle doit orchestrer les conflits. Elle ne doit pas les mettre sous le tapis. Or, même si le conflit n'est plus entre la droite et la gauche...
Mais la politique et la culture du compromis aussi.
Non, mais même si le conflit n'existe plus entre la droite et la gauche, le problème, et ça, on le verra à l'usage. On verra, si vous voulez, le risque, c'est qu'Emmanuel Macron fasse la politique de sa sociologie, c'est-à-dire du bloc central de la société française, et se foute, ou pas se foute, mais disons, oublie ceux qui sont au bord du chemin.
Oui, mais le risque est là de perdre une des valeurs fondamentales de la France, qui est la fraternité. Aujourd'hui, la France est tout sauf que fraternelle.
Mais c'est pas avec des discours que vous allez avoir la fraternité.
Stop, terminé sur ce premier sujet, on enchaîne sur le deuxième. Ne nous excusons pas. Et encore un nouveau report pour les salariés de GM&S, le tribunal de commerce de Poitiers statuera finalement le 4 septembre sur l'offre de reprise déposée par GMD. 277 emplois sont toujours en sursis dans une certaine tension. GM&S, est-il le Florange d'Emmanuel Macron ? Vous vous souvenez, hein, Florange, François Hollande y avait beaucoup promis aux ouvriers des hauts fourneaux. Emmanuel Macron a aussi beaucoup promis à la souterraine dans la Creuse, Hervé Fabre.
Moi, je n'ai pas souvenir qu'Emmanuel Macron ait été devant l'usine de la souterraine, juché sur une caméra.
Il avait même dit justement que c'était bien. Voilà. Mais il leur avait quand même promis à venir.
Et forcément, parce que cette affaire-là.
Il leur a promis qu'il ferait tout son possible, ça ne mange pas de pain.
Cette affaire-là, je dirais que c'est le premier caillou social dans sa chaussure, quoi. Parce que quand on a fait une campagne en plus sur la réindustrialisation de la France, voilà, il y a ce cas de, qui touche une région déshéritée, il faut bien le dire. Parce que l'histoire de cette usine est intéressante. Elle a été lancée pendant les 30 Glorieuses, le général de Gaulle. Donc à l'époque, on pouvait mettre des usines dans les endroits les plus reculés.
Maintenant, on met des centres d'art contemporain.
Il fallait faire reculer le désert français. Bon, et après, ce sont des usines qui sont très dépendantes de leurs clients, donc en l'occurrence Renault et PSA, mais ça ne les intéresse pas forcément d'avoir une usine, effectivement.
Ah, bah non, ils préfèrent. Et puis surtout, ils préfèrent acheter en Tchécoslovaquie, à mon avis.
Oui, il y a ce problème-là.
Pas, il me semble que c'est là-bas ou en Slovaquie, ou je sais plus.
L'une des deux, en tout cas.
L'une des deux, en Tchéquie ou en Slovaquie. Pardon. La région de Tchécoslovaque, si vous voulez.
Voilà, Emmanuel Macron se heurte là tout de suite au problème de la désindustrialisation. Comment lutter contre? Et pendant ce temps-là, moi, je voudrais quand même vous faire remarquer vous avez entendu parler du conflit TIM.
On en a parlé ici sur RTL la semaine dernière.
On en a parlé, mais vraiment très tardivement. Il y avait plus de 400 emplois en jeu.
C'est vrai.
Finalement, la solution a été trouvée également avec une intervention, là, cette fois, non pas de l'État, mais de la région, avec Xavier Bertrand. Mmh. Bon, c'est marrant comme. L'actualité parfois se focalise sur des endroits.
Est-ce que c'est pas lié à la pas à la violence,
la médiatisation, à la
radicalité. Les gens de Tim, effectivement.
Paolo Lévy, voilà.
S'il vous plaît. Ils ont regretté de ne pas avoir été assez.
Ils disent il faut casser. Ils disent il faut casser pour être entendu.
Allez, Paolo Lévy, il est devant le principe de réalité, Emmanuel Macron là.
Oui, absolument. Il a démontré dans cette dernière séance d'être beaucoup moins libéral par rapport à ce qu'il avait promis et de
c'est
la façon par laquelle il s'était présenté pendant la campagne présidentielle, aussi moins européiste. On l'a vu aussi non seulement par les deux grands dossiers industriels, les premiers de son mandat, celui-là que vous avez cité, aussi le cas de STX avec Fincantieri, ou comme on l'a vu, demain il y aura une rencontre très très importante à Rome avec le ministre Bruno Le Maire. On verra les propositions qui vont être présentées par la France sur la table. En tout cas, ça a été très très mal reçu en Italie. Il y a cette caricature extraordinaire qui a été faite, publiée sur le Corriere della Sera, le plus grand journal italien, qui en quelque sorte synthétise très bien l'état d'âme des Italiens, c'est-à-dire on voit un Macron en Zinedine Zidane qui donne un coup de boule à notre Premier ministre Paolo Gentiloni. Nous, on est très très vexés en Italie parce qu'on pensait avec ce président de construire l'Europe ensemble et en fait non, on voit qu'en France, les intérêts illusions. Nationaux ont toujours la priorité sur les autres.
Dans le dossier, il y a la Chine et s'il n'y avait pas la Chine dans le dossier, je pense que ça ne se passerait pas.
On revient sur GMS. S'il vous plaît, Elisabeth.
Je ne peux pas m'empêcher de taquiner. J'aime beaucoup l'Italie par ailleurs.
Moi aussi.
Et je ne veux pas. Je pense que Macron a eu tort en plus de les ignorer sur la Libye. Parce que là, franchement, il aurait dû être associé. Mais pardon. Non, je réponds quand même juste là-dessus. Je pense que c'est très important. C'est ça la légitimité. Le président de la République française a été élu pour défendre les intérêts nationaux, pour défendre les intérêts de la France. Alors, on peut considérer que dans les intérêts de la France, il y a l'Europe. Je ne vous l'enlève pas complètement. Mais c'est très important et c'est ça qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il a essayé de reprendre la main, moi ce que j'ai trouvé très bien sur les chantiers navals GMS. Par ailleurs, non, là-dessus, écoutez, moi je ne suis pas une technicienne de cette affaire. Je ne sais pas. Il me semble pas qu'ils aient fait. Par contre, là, j'appuie ce que vient de dire Hervé. Écoutez, Hollande avait mené les gens de Florange en bateau. Eux, ils ont été très prudents. Le maire a été un tout petit peu plus explicite en disant on laissera personne sur le carreau, ce qui veut dire qu'ils vont brandir des plans de formation, de reconversion, etc. C'est pas non plus un très grand nombre d'emplois. Pour l'instant, ils sont sur une base où ils ont dit que le type reprend la moitié des emplois. J'espère qu'avec le poids de l'État. Dans la négociation, ils vont certainement lâcher des trucs.
Alors,
des
grand nombre d'emplois. Le problème, c'est que c'est le plus gros employeur du département.
Absolument,
c'est vrai. Ça change un peu la vision du dossier.
Ce que je veux dire, c'est que pour les sauver, il en reste donc 140, si j'ai bien compris, à sauver. Maintenant, il y a une marge de négociation. Et c'est là que l'État, qui n'a pas de rôle d'ailleurs officiel, en réalité, l'État, il a un peu pour. Ils invitent les gens à se.
Il peut faire pression sur Renault et PSA.
Sur Renault et PSA, voilà, pour leur demander. Mais en revanche, il y a une chose qui est très importante là-dedans. Renault, nous devons avoir, une filière automobile. Nous devons avoir une industrie automobile et nous devons avoir aussi des emplois industriels en France. Donc, je trouve que tout ce que fait Macron, qui va dans ce sens, me paraît bien.
Point
et
final.
J'espère qu'on trouvera un accord avec les Italiens.
Mais on en reparlera demain. Allez, soyons amis. Déjà, avant demain, dans un instant, on va parler du bazar du train, la SNCF.
On refait le monde dans RTL Soir
avec Florence Cohen.
Et Paolo Lévy, Hervé Favre et Elisabeth Lévy. Quel bazar, hein, au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris. En plein chassé-croisé des juilletistes et des haussiens, le trafic a été interrompu hier jusqu'en début d'après-midi. Il a repris, mais de façon bien poussive, y compris aujourd'hui. Et les choses ne sont toujours pas rentrées dans l'ordre. Il va falloir attendre demain au mieux. Tout ça à cause d'une panne de signalisation dont on ne connaît pas l'origine. Ça n'est que la nuit, quand les trains ne roulent pas, que les techniciens peuvent chercher la cause et réparer.
Ah ben voilà.
L'un de vous a été victime de ce bazar hier ou pas ?
Non.
Personne ? Non, tant mieux pour vous.
Je me réjouis d'être utilisateur du TGV Nord.
Eh ben voilà, vive le TGV Nord. Dites-moi, qu'est-ce que vous vous dites en regardant cette pagaille ? C'est pas de bol, ça tombe mal, un point c'est tout, ou bien il est temps que la SNCF investisse, Elisabeth Lévy ?
Alors, je voudrais dire trois choses. Je vais répondre sur l'investissement. Il faudrait que l'usager qui réclame depuis deux jours des investissements rencontre l'usager qui râle parce que les billets sont trop chers et parce que les impôts sont trop chers. Que ces gens-là se parlent, et on reparlera de cette affaire d'investissement, parce que j'en ai marre d'entendre des gens dire « il n'y a qu'un faucon ». Bon, la deuxième chose, c'est que quand on communique toute la journée sur patati et patata, et je suis moderne, et je suis inouïe, et je suis ceci, et je suis cela, évidemment, ça vous retombe sur le nez, si vous voulez. C'est donc, évidemment, ils l'ont un peu cherché, comme vous l'avez dit. Mais maintenant, ce qui me paraît le plus intéressant là-dedans, si vous voulez, c'est que, moi, je crois que la SNCF est une entreprise assez en pointe du point de vue technologique. Eh bien, je veux dire, elle n'est pas à l'abri de panne. Ça, je veux dire, voilà, vous n'avez c'est pas tout. De système avec zéro panne. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes aujourd'hui dépendants de systèmes d'une complexité énorme, si vous voulez, et à la fin, derrière tout ce virtuel, il y a un bouton, une molette, un truc. Et ces systèmes, on les maîtrise. C'est très difficile de les maîtriser avec une vue d'ensemble.
En l'occurrence, là, c'est la revanche de l'homme sur l'automatisation, voilà. Puisqu'ils ont été obligés d'envoyer des cheminots dans le fameux poste d'aiguillage de Banff.
Parce qu'à la fin, il y a du matériel. C'est plus, on croit que tout ça, c'est
mais
des.
Mais ce n'est pas une question de vétusté, en l'occurrence, puisque c'est un poste d'aiguillage.
Ça peut arriver, c'est ça.
Peut-être une vingtaine d'années. Enfin, on ne peut pas dire. On a eu parfois découvert qu'il y avait des
Le porte-parole de la SNCF reconnaissait ce matin que le matériel était quand même vieillissant.
Oui, enfin, mais c'est pour ça.
Quand les gens râlent en disant, écoutez, je voudrais juste.
C'est pour ça que le gouvernement est revenu sur la politique de tout TGV en disant maintenant, il faut mettre de l'argent sur le réseau existant. Il y a trop de problèmes. Donc oui, on peut comprendre effectivement ce choix stratégique. Ouais. Mais là, quand même, depuis l'inauguration du TGV Ouest, là, on peut dire que la SNCF joue de malchance. Et c'est souvent la loi des séries. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a un gros problème. Sur les rails, ça va.
Comment vous voulez qu'on sache, nous, si c'est parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils n'ont pas de bol?
Non, mais vous,
entre
vous,
nous,
vous pouvez extrapoler au récent déboire de la SNCF. Paolo Lévy, votre œil transalpin.
Ben non, c'est certainement un complot du président Emmanuel Macron qui avait pour mettre en valeur la libéralisation de ces bus. Non, je rigole. Plus sérieusement, moi, je pense, voilà, avec l'œil transalpin, je pense que la France a été. Pendant des années, a eu vraiment la primauté. Vous étiez à l'avant-garde du TGV que vous avez presque inventé, en tout cas que vous avez développé de façon extraordinaire. Et après ça, vous vous êtes un peu reposé sur les lauriers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SNCF reste monopole ici en France. En Italie, par exemple, c'est l'exemple que je connais le mieux, les trains étaient un désastre jusqu'au jour où on a libéralisé le marché, un nouveau concurrent est rentré.
En Suisse, les trains sont publics et ils marchent très bien.
On a eu l'exemple inverse en Grande-Bretagne.
Un nouveau acteur est rentré, disons, dans le réseau italien.
Il n'est plus macronien que Macron, notre ami Paolo.
Et Elisabeth Lévy, même en Italie, l'entrée en jeu de ce nouvel acteur, je vous jure, a contribué à changer complètement la donne. Aujourd'hui, il y a des trains extraordinaires.
Absolument.
D'un concurrent et de l'autre. Mmh. Et vraiment, nous, les Italiens, on est tous bouche bée parce que ça a vraiment...
C'est dingue. Alors, si ça marche,
Non, mais moi, je suis... Alors, pour être... gros utilisateur du TGV, je suis pour la concurrence. Si un jour j'ai un TGV d'une autre marque que la SNCF entre Lille et Paris, je veux bien l'utiliser. Mais je ne sais pas, quand je vois la saturation aujourd'hui du réseau et que le moindre problème a de telles répercussions, je ne sais pas comment on va faire pour intégrer en plus des rames d'opérateurs étrangers. Là, il y a un mystère.
Honnêtement, je pense qu'il y a peut-être un problème d'investissement, ou en tous les cas, il y a peut-être un problème de niveau, comme l'a dit Paolo, ça j'en sais rien, mais je ne crois pas que la concurrence, je ne suis pas sûr que la concurrence le résoudrait. En tous les cas, je demanderais aussi à ce qu'on réfléchisse à l'exemple anglais qui a été ce que l'on sait. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, j'ai entendu le patron de je ne sais pas quelle association d'usagers. Et là, si vous voulez, je veux dire, la SNCF a donc annoncé que tous les gens qui avaient plus de 4 heures, c'est-à-dire un paquet de gens de retard se verront offrir leur voyage. Bon, c'est bien, moi je trouve ça très bien, et immédiatement, les types, c'est pas assez, il doit faire ci, il doit faire ça, bon sang. Je veux dire, c'est quand même, je veux dire, vous ne pouvez pas demander, exiger, si vous voulez, avec cette espèce d'aplomb des gens, on doit, je veux dire, il y a une panne, enfin, voilà.
Moi, je me fais le porte-parole de nos auditeurs qui ont été dans les trains pendant 8 heures d'affilée,
oui, ils ont fait des dédommages. Oui, et bien ceux qui ont été pendant 8 heures d'affilée seront dédommagés, je veux dire, puisque à partir de 4 heures de retard, ils remboursent. Donc,
je trouve relativement peu indulgent et empathique pour les gens qui ont attendu dans les gares. Par exemple, vous, Hervé Favre.
Alors, moi, je comprends qu'ils soient
en colère.
Plus, c'est quand même en plus à une période, vraiment la pire période, quoi. Le week-end de grand départ, c'est sûr que c'est quand même très problématique.
Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on sache s'il y a des gens qui font mal leur boulot ou si c'est la faute à la TGV.
Bon, cher, ça c'est vrai. Mais des prix, mais c'est quelque
donc,
chose. Moi, je vais.
C'est très, très cher. Et alors,
donc,
entre
alors
et
là,
Paris,
la question.
C'est, non, mais... c'est devenu attends, un truc pour des milliardaires.
Entre Lille et Paris, c'est 1 euro la minute.
Ouais. Non, la question qu'a posée Hervé, en fait, qui ne l'a pas posée, mais qui me permet de la poser, c'est quand même de peut-être. Mais ça, c'est un peu. C'est pas aujourd'hui qu'on devrait y penser. Est-ce que les investissements, les choix faits par la SNCF ont été bons? Par exemple, le TGV Atlantique. Il y a énormément de controverses sur cette double ligne du TGV Atlantique, sans compter qu'elle a des conséquences écologiques déplorables, semble-t-il. Et, je veux dire, il y a un côté, si vous voulez, aussi, je veux dire, il y a aussi une culture des ingénieurs en France qui fait des très bonnes choses, mais qui pousse peut-être vers, parce qu'on va bientôt voir, on va bientôt voir ce que devient Hinkley Point, le gros projet EDF en Angleterre, mais beaucoup de gens ont peur, je veux dire, pour l'existence d'EDF.
Hein, allez, donc, voilà, on en termine sur ce sujet-là, mais on reste dans le domaine des transports routiers, cette fois. Les recettes des radars routiers vont bien, merci. Elles ont augmenté de 18,5% en 2016 par rapport à 2015 pour atteindre 920 millions d'euros. Bon, le plus croquignolé dans l'affaire, c'est que cet argent doit en principe servir à améliorer la sécurité sur les routes. Dans les faits, la moitié de cette somme est allée tout simplement dans les caisses de l'État pour le désendetter. Les radars ont une vraie utilité dans une politique globale de sécurité routière, ou bien c'est juste une pompe à fric, Paolo Lévy, vous qui nous disiez l'autre jour que finalement l'impôt, enfin pas finalement, que l'impôt, quelle que soit sa forme, eh ben c'est bien.
Écoutez, le nouveau gouvernement s'est engagé à rentrer dans les clous européens pour la fin 2018. Moi, je pense. Moi, je pense que vraiment, oui, c'est le cas. Je pense qu'ils sont en train de gratter là partout où ils peuvent pour...
Même sur les 460 millions, en l'occurrence.
Et même sur ça. Après, si cela peut contribuer, bien sûr, à la sécurité routière, pourquoi pas? Parce que je ne suis pas sans vous rappeler que tout dernièrement, il y a une semaine, on a annoncé une nouvelle hausse de la mortalité sur les routes, donc ça repart à la hausse et c'est très inquiétant. Donc pourquoi pas augmenter les prix des sanctions.
Les deux en même temps, Hervé Favre, utile et rentable.
Bon, je sais bien que les radars, c'est un sujet très impopulaire, mais objectivement, il faut reconnaître que l'année où les radars ont commencé à être multipliés sur les routes, il y a eu un effet vraiment sur la courbe de mortalité. Aujourd'hui, effectivement, elle repart au mois de juin, elle est repartie à la hausse. Et je suis un gros utilisateur du TGV, mais je roule aussi en voiture et je suis effrayé par les comportements que je vois d'une toute petite minorité d'automobilistes, hein, mais qui enfreignent absolument toutes les règles. La vitesse, évidemment, le portable.
Le téléphone portable, tout enfin, le temps.
C'est bon. Les radars ont au moins permis de limiter, mais sur les secteurs où ils sont installés, évidemment, des excès de grande vitesse. Et moi, je le vois à Lille. Vous arrivez à Lille maintenant, c'est zone 90 avec des radars. il y a très peu de gens qui enfreignent la loi. Et une fois qu'on passe les radars, alors là, c'est open bar, et les gens appuient sur le champignon. Donc il y a, y a une pédagogie, oui. Effectivement.
Sauf qu'on va vous dire, ils sont souvent installés sur des secteurs en descente, oui. Où évidemment ça va plus vite. Donc
ils sont souvent installés pour brimer l'automobiliste dans des endroits où il n'y a pas de danger. C'est ça le critère. C'est qu'ils les installent. Mais bien sûr, j'ai pas dit toujours, j'ai dit souvent.
Ils ne sont pas toujours installés au meilleur endroit, ça c'est
installés
vrai.
Dans des endroits où il n'y a pas de danger, ce qui est énervant. Par ailleurs, si vous voulez, je ne sais pas si... Il me semble s'ils ont perdu leur efficacité, c'est parce que maintenant, n'importe quel GPS, le plus idiot des GPS, vous indique où sont les radars. Donc, évidemment, c'est un peu moins dissuasif. Je dirais que globalement, moi je peux parler que de mon expérience. Moi, j'ai l'impression que toutes ces mesures, etc., j'ai tellement pas envie de repasser mon permis que sur moi, ça marche. C'est-à-dire, globalement, j'essaye vaguement de respecter les limitations de vitesse. Et à Paris, j'aimerais bien arriver à rouler à 50 à l'heure, ce serait déjà pas mal. Mais que ça aille dans les caisses de l'État... Je veux dire, vous dites, est-ce que c'est utile ou est-ce que ça va dans les caisses de l'État ? Mais quand même, si ça va dans les caisses de l'État, c'est utile.
On ne peut pas se reposer uniquement sur les radars pour régler le problème de la sécurité routière. Ce qu'il faut aussi, c'est une vraie police routière. Or, aujourd'hui, les effectifs de police sont mobilisés sur l'opération Vigipirate. On voit finalement assez peu de gendarmes ou de policiers sur les routes. Et malheureusement, la peur du gendarme, c'est encore aussi...
En même temps, il faudrait...
Pour préciser, parce qu'il faut tout de même savoir qu'à 200 à l'heure, il n'y a pas de zone où il n'y a pas de danger. À 200 à l'heure, le danger, il est partout.
Paolo, justement, vous me l'ôtez de la bouche, j'allais dire. Il faut penser à tous ces gens qui perdent à chaque fois un ou deux points parce qu'ils ont roulé à 75 sur une route où c'est autorisé à 70. Il y a une espèce de comportement brimatoire. Pardon, ça n'existe pas.
Bon. C'est pas grave, c'est un néologisme magnifique.
Des automobilistes, à Paris, c'est encore plus dingue, c'est encore autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où c'est pas légitime. Quand il s'agit d'empêcher des gens de rouler à des vitesses de dingue, évidemment, mais en réalité, vous perdez votre permis pour avoir roulé 5 fois et avoir pas eu de chance et avoir roulé 5 fois 10 au-dessus de la limite. Donc, je veux dire, franchement, le business du permis, il faudrait peut-être aussi faire attention à ça parce que les gens deviennent fous. Je veux dire, avec devoir repasser le permis à 50 ans, tu vois,
voilà le sujet pour un prochain jour de discussion. Dans un instant, on va se demander si les vacances illimitées, les congés illimités dans les entreprises, c'est une bonne idée.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Florence Cohen.
Dernier sujet avec Hervé Favre, Elisabeth Lévy et Paolo Lévy. Les vacances illimitées pour les salariés, ça fait rêver. Certaines entreprises l'ont fait, surtout des petites start-up. L'idée, à partir du moment où vous avez rempli vos objectifs de travail, vous pouvez poser... ne riez pas, pardon. Elisabeth, laissez-moi terminer. À partir du moment où vous avez rempli vos objectifs, donc vous pouvez poser autant de jours que vous voulez. Et il paraît que les employés s'autorégulent. Cette pratique vient des États-Unis, de Californie précisément. C'est une chouette bonne idée ou bien c'est inapplicable et il y aura des dérives de toute façon, Hervé Favre.
Précisons déjà que c'est pas prévu dans les ordonnances de la loi travail.
Exactement.
C'est
une notion d'applicabilité
qui vient des États-Unis. Alors effectivement, aux États-Unis, je crois qu'ils ont en moyenne 15 jours de congé par an, donc je comprends que des salariés soient désireux d'en prendre un peu plus. Ça peut effectivement être adapté à on le voit d'ailleurs, ceux qui ont lancé ça sont des start-up, la nouvelle économie, le numérique, où il y a beaucoup aussi de travail à domicile. Je vois pas comment
la Super U, ça va pas le faire.
Je vois pas comment on pourrait appliquer ça aux caisses de supermarché ou dans les usines de fabrication automobile.
Bon, c'est un joyeux rêve.
Oui,
c'est encore une fois,
en plus en France, on a un code du travail extrêmement...
Oui, on va y revenir.
Mais vous allez voir, tout va changer avec le grand président.
On va y revenir sur le code du travail, précisément. Elisabeth Lévy.
Non, mais enfin, moi, je trouve que c'est une espèce de propagande de l'idéologie en vogue qui est le start-upisme, qui est l'idéologie de Macron, en fait. C'est-à-dire, ouais, c'est chouette, on bosse pas vraiment. D'abord, on bosse pas vraiment, nous. C'est pas, tu vois, c'est une passion. C'est une passion qu'on a, nous, tu vois. Alors, on compte pas nos heures et puis après, on compte pas nos congés. Non, mais évidemment, d'abord, ça veut rien dire une entreprise où le travail est fait. Vous connaissez, moi, dans un journal, je ne peux jamais dire à un moment que le travail est fait, par exemple, parce qu'il faut toujours le refaire. Il y a toujours un numéro qui arrive, il y a toujours un truc. Donc à aucun moment vous pouvez dire que le travail est terminé. Enfin franchement, c'est vraiment encore la gadgetisation.
Paolo Lévy.
Oui, la vie sociale. Non, c'est vrai que ça fait un peu sourire. Ça dépend du contexte. Certainement, là, on parle de start-up, peut-être en Californie, avec des travailleurs jeunes, de bonne volonté, qui peuvent s'organiser de sorte.
Sont à 15 jours par an.
Ça me rappelle un peu les tourniquets du métro de Bruxelles ou de Berlin, qui n'existent tout simplement pas. Tu peux passer tranquillement, même si tu n'as pas ton ticket. Et dans ces sociétés-là, ça marche. Tu fais la même chose chez moi à Rome. Ça deviendrait une pagaille. Tout le monde faudrait. Donc, ça dépend du contexte. Et probablement, dans la Silicon Valley, dans certains contextes, dans certaines réalités de start-up, je déteste cette expression, mais elle est en vogue, comme vous le dites, Elisabeth, peut-être que ça peut marcher, mais on ne peut certainement pas le généraliser à une société tout entière.
Et manifestement pas l'appliquer en France, de toute façon, vu, vous l'avez dit très justement, notre code du travail.
Non, mais comme Hervé l'a fait remarquer, c'est surtout que c'est parti aux États-Unis, c'est des gens qui, normalement, ont 15 jours par an, alors qu'ils en veillent un peu plus.
Je pense que dans le système, les congés illimités, comme contrepartie, le travail illimité sur certaines périodes, c'est-à-dire avec des journées de 15-18 heures.
Ça fait partie effectivement des dérives que les associations peuvent pointer, effectivement, en disant c'est la porte ouverte au stress, parce que de toute façon, on va les presser comme des citrons avant de leur donner des congés.
Oui, mais vous savez, moi, je voudrais dire un truc, c'est qu'on dit toujours, on parle toujours des patrons voyous, ça existe certainement, mais il y a aussi des salariés voyous, il y a des gens qui n'aiment pas... arrêtons de croire que le monde est rempli, si vous voulez, tyrannique, etc. Non, mais c'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette espèce d'idées que, on est tous une bande de potes et tout. Je veux dire, c'est pas comme ça. Il y a des rapports de force, il y a des bagarres, il y a des conflits. Et on n'est pas tous des start-up californiennes, malheureusement.
Dans ce système, apparemment, il y a aussi la volonté des employeurs de se débarrasser du problème des jours de congés non pris en fin de contrat. Donc là, ils sont obligés de les payer. Avec ce système de travail illimité, là, cette obligation sauterait. Donc en fait, une économie pour les employeurs.
C'est le deuxième biais de l'exercice, effectivement, Paolo Lévy. Il y a une notion économique là-dedans. C'est pas totalement des philanthropes, nos amis patrons ?
Non, absolument pas. On ne peut pas le dire, ça. Et oui, peut-être en Californie, ils ont aussi des boîtes qui sont à 50 mètres de la plage. Donc peut-être que
j'adore votre vision de la Californie.
Ah, mais non, c'est ça. Si vous allez voir dans la Silicon Valley, etc., vous avez d'un côté la boîte à 50 mètres, les gens qui font du surf. Donc peut-être là-bas ça peut marcher, mais ici avec.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez du discours français sans aller jusqu'aux vacances complètement dérégulées, illimitées, qui demande la sixième semaine de congés payés ?
Oh, vraiment, c'est le moment là. C'est vraiment l'urgence. Pour le pays de se lancer dans un débat, c'est tout à fait. Je veux dire, c'est vrai, les caisses sont pleines.
J'ai vu que Christophe Barbier avait eu beaucoup de succès en demandant aux Français de renoncer à la cinquième semaine.
Oui,
Et depuis, il y a un déchaînement contre lui.
C'est exactement ça. Allez, on va s'en tenir là pour ce soir. Merci à tous les trois d'avoir débattu dans On refait le monde dans quelques minutes. De l'autre côté du flash de 20h, ce sera Laetitia Nallet et Christine Haas pour Quel est votre signe ? Et dans un instant, le flash signé Alexandre de Saint-Aignan. À tout à l'heure.